C'est jeudi, j'ai psy. Bonjour Armel.
Bonjour Sylvie.
Alors Armel, eh bien, on se retrouve pour un C'est jeudi, j'ai psy. Et aujourd'hui, on est complètement au cœur de l'actualité puisque tu m'as proposé de parler des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale.
Eh bien, oui, je te l'ai proposé parce que ma foi, ça revient à peu près dans toutes les consultations que j'ai là depuis 2-3 semaines. C'est vraiment au cœur des discussions et pour les patients de tous les âges. Et ça commence aussi à être au cœur des discussions pour les formations, tu vois. Mmh. Là, moi, je suis formatrice pour l'INFIP et j'ai proposé d'ailleurs pour 2021 une formation en direction des personnels de santé sur les conséquences de l'épidémie sur la santé mentale. On commence à en parler maintenant quand même. Hein.
Et c'est des choses qu'on pouvait pressentir, puis dont on a parlé régulièrement d'ailleurs dans ces chroniques depuis le début de l'année, parce qu'on sent bien, on sent bien à la fois sur soi-même et puis sur notre entourage, ne serait-ce que ça, quand on n'est pas professionnel, qu'il y a des risques, et je dirais encore plus sur ce second confinement. Est-ce que toi, tu peux observer ça sur les consultations?
Alors oui, et puis alors je dois dire que j'ai fait partie des optimistes utopistes à la première, enfin à la première vague, parce que c'est vrai que j'entendais beaucoup de patients me dire que finalement, ils vivaient un peu leur meilleure vie pendant le confinement en mars et en avril. Il y avait des gens qui étaient très bien en fait d'être peinards chez eux. Il y avait des gens qui se retrouvaient. Il y avait des familles qui se ressoudaient aussi. Il y avait des belles dynamiques. Et puis c'était aussi un temps de pause. Beaucoup me disaient, c'est un temps de pause. Je me sens bien. Je me sens serein, sereine, etc. Donc je me disais, je voyais moins de gens en souffrance que de gens qui avaient l'air quand même de tirer profit, psychologiquement parlant en tout cas, pas financièrement évidemment, de ce premier confinement. Donc j'étais j'étais dans une perception un peu positive de la chose, et puis est arrivé le deuxième.
Ouais, et là la donne a changé.
Là c'est la dégringolade complète, et je l'ai pas compris non plus immédiatement, parce que moi j'avais l'impression que finalement, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de choses restaient normales, notamment les enfants scolarisés, les ados scolarisés, y a beaucoup de boulot qui pouvait continuer à se faire en télétravail ou pas, mais en tout cas avec un protocole sanitaire, les transports fonctionnaient, les commerces restaient ouverts. Donc si tu veux, sur le coup je me disais ça devrait pas être, l'impact devrait pas être très violent. En réalité, ça a été quand même assez immédiat, dès l'annonce du deuxième confinement, qui pourtant est un confinement vraiment léger, je trouve. Et là, c'était flagrant. C'était vraiment au cœur de toutes les discussions. Et je commençais à revoir des patients de tous âges que je n'avais pas vus depuis longtemps, qui avaient terminé leur travail et qui me rappelaient là, ou alors des parents qui me rappelaient en me disant là, il faut qu'on vous le ramène, qu'on vous la ramène. Ça va pas du tout.
Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de la fatigue générale, parce que cette année a été épuisante, on s'en rend pas forcément compte, mais là du coup on le prend dans la figure, ou est-ce qu'on peut mettre ça aussi sur le compte du fait de n'avoir aucune lisibilité sur l'avenir?
En fait, c'est vraiment ça. C'est multifactoriel de toute manière. Mmh. Déjà, le fait que le deuxième confinement tombe sur la période automne-hiver.
Oui, qui est généralement...
Mais bien sûr, on sait très bien que la dépression liée aux saisons existe, donc déjà en temps normal. Mais là, en plus, le fait, par exemple, de ne pas pouvoir aller se promener loin, de ne pas pouvoir aller prendre l'air de la mer, etc., alors qu'on est en automne-hiver, qu'il fait froid, il y a eu des moments où il faisait vraiment très sombre, des grosses pluies, etc., c'est tout de suite beaucoup moins fun que quand on était confiné en plein printemps avec les bourgeons, les couleurs, les fleurs, etc. La donne n'est pas la même. Mais tu as complètement raison, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a ces deux choses-là qui s'observent. La première, c'est l'épuisement, c'est la fatigue physique. Et cette fatigue, elle n'est vraiment pas du tout imaginaire. Elle est liée déjà au fait qu'on n'a pas eu des vraies vacances. Il n'y a pas eu un vrai temps pour se ressourcer déjà cet été. Et puis pas non plus à la Toussaint. cet été et à la Toussaint, bah, c'était parce qu'on n'avait pas le droit de voyager. Enfin, c'était très, très restreint en tout cas. Il y a beaucoup de gens finalement qui avaient épuisé des congés parce que leurs entreprises leur avaient demandé de les poser pendant le premier confinement. Donc, ils se sont retrouvés l'été à pas vraiment avoir de congés pour se ressourcer. Et puis, oui, il n'y a pas eu la vraie coupure qu'il y a habituellement, où on prend pour certains 2-3 semaines, on va loin, on change de paysage, on se ressource, etc. Donc ça, ça a manqué. Et donc, et je le sais vraiment intimement, parce que moi, je me sens concernée pour le coup. J'ai quasiment pas pris de vacances cet été. Les patients étaient là, les gens étaient là, donc ils étaient en demande, donc il fallait travailler. Et puis finalement, je me suis dit, comme beaucoup, bon, on verra la Toussaint, ce sera peut-être l'occasion de bouger un peu en arrière-saison. Et ben non, paf, reconfinement, donc de toute façon, on n'a pas bougé du tout. Et puis là, on arrive à 2 semaines des vacances de Noël, on est complètement épuisé. Donc la fatigue n'aide pas, évidemment, sur le moral. Et à côté de ça, tu as raison, il y a cette autre chose qui est l'absence de projection positive, de perspective agréable. C'est-à-dire qu'en mars-avril, on s'est tous dit, ça ira mieux et cet été, au moins, on en profitera. Mais là, on ne peut rien se dire, en fait. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de limite. C'est une temporalité qui n'est pas bornée. On ne peut pas se dire, c'est l'affaire de tant de temps et puis après, ça ira mieux. Ben non. Hein. Là déjà, on n'arrive pas à se dire, bah, tiens, dans un mois, dans 2 mois, on arrêtera de porter le masque, on n'en sait rien. On ne peut même pas se dire, là, bah, l'été prochain, je me fais un méga voyage, non, on n'en sait rien, et pourtant l'été, c'est dans longtemps. Donc en fait, on ne peut absolument pas se projeter, et ça encore, je parle des vacances ou du confort du masque, j'ai presque envie de dire que c'est un problème de riche. Mais il y a des gens qui financièrement en plus voient leur activité professionnelle qui s'amoindrit, voire qui s'anéantit. Donc il y a aussi des perspectives financières qui sont très sombres. Et puis pour les enfants et les ados, c'est les perspectives d'orientation qui sont vraiment bouchées, qui sont obscures, qui sont floues. Là notamment, j'ai plusieurs patients qui sont en terminale et qui vont devoir faire leurs vœux sur Parcoursup en janvier. Donc janvier c'est demain, oui. Et qui n'auront pas pu visiter des écoles, rencontrer, aller sur des forums, rencontrer des professeurs.
Oui,
et
tout donc, se fait à la vogue.
Mais voilà, ils vont faire des vœux qui sont quand même en grande partie décisifs pour leur vie future, y compris professionnelle, pour leur projet de vie, même dans quelle région ils vont faire leurs études supérieures. Et ils n'ont aucune possibilité de faire ça vraiment en ayant la possibilité de peser le pour et le contre, en ayant des données factuelles et rationnelles. Donc là, pour eux, c'est anxiogène plus.
Et est-ce qu'on constate une augmentation des... on constate effectivement une augmentation des gens qui vont venir consulter, mais de façon plus dramatique, est-ce qu'il y a une augmentation des tentatives de suicide, par exemple?
Oui. Alors là, vraiment, on a maintenant, et c'est ce qui fait que je me dis que bon, j'ai été très très optimiste en mars-avril, et je le regrette un peu, mais là maintenant on a des études vraiment qui émergent. Par exemple, la semaine dernière, c'est l'hôpital Debré à Paris, hein, dans le 19e arrondissement, qui reçoit les enfants et les ados, qui a fait remonter des chiffres complètement alarmants. Ils ont signalé le doublement des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans par rapport à l'an dernier. Voilà. Dans les chiffres qu'ils ont avancés, ils ont dit qu'un jeune de moins de 15 ans arrive pour tentative de suicide presque chaque jour à Debré, alors qu'il y a un an, c'était un tous les 3-4 jours.
Voilà. C'est
donc ça touche directement les jeunes. C'est complètement affolant, effectivement, comme chiffre. Mais je ne suis pas étonnée parce que ça correspond aussi à ce que j'observe. Là, les ados et les enfants vont très, très mal, effectivement. Du côté des adultes, ce n'est pas franchement mieux. Je n'ai pas de retour, je n'ai pas d'études sur les tentatives de suicide. En revanche, il y a eu une grande enquête de Santé publique France qui, d'ailleurs, a été médiatisée la semaine dernière. Donc, ça a été relayé par les journaux, etc., qui a été menée début novembre, donc c'est tout frais, et qui révèle que 20% des Français souffrent de troubles psy en ce moment. Donc imagine, 20%, hein, voilà ce que ça donne. Rien que dans ta famille, tu vois, tu prends ta famille, ça te donne une idée de l'échelle, contre 10% avant. Donc c'est absolument dramatique, parce que le problème, c'est qu'en face de ça, ben, y a pas la réponse à la demande. Il n'y a pas les professionnels pour suivre ces gens-là. On sait tout ce que l'hôpital public a subi et continue de subir. Donc évidemment, tous les services psy sont complètement saturés, voire fermés, Moi, je connais des tas de gens qui me disent, bah, pour l'instant, mon suivi psy est suspendu parce qu'à l'hôpital public, ils ne font pas de visio pour la plupart, hein, pour des tas de raisons, de sécurité, etc. Donc, il n'y a pas de visio. Et les services sont fermés parce qu'il y a beaucoup de Covid et que pour l'instant, on privilégie les Covid. Donc, dans le public, il n'y a pas de possibilité d'avoir des rendez-vous urgents, à moins d'atterrir aux urgences. Mais alors là, bon... on sait que voilà, ce n'est pas la prise en charge qui correspond. Et puis après, ben, dans le libéral, on est aussi très, très saturé. Et surtout, le libéral, ben, ça coûte cher. Hein.
Bien sûr.
Ça coûte cher, donc ce n'est pas accessible à tout le monde.
Bien
voilà.
Sûr.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire aider en ce moment et ils en auraient grand besoin.
Alors, pour, parce qu'on est, voilà, on essaye toujours de donner quelques conseils. Là, c'est très compliqué parce que quand on parle des enfants ou des jeunes qui vont très mal, mais les adultes ne vont pas très bien, c'est très compliqué quand on est parent ou quand on est dans l'entourage de jeunes, de les aider quand soi-même, on va pas bien. Est-ce qu'on peut quand même donner quelques pistes, par exemple, de parler, c'est pas facile quand on va pas bien de parler, mais c'est justement le moment où il faut. Donc peut-être vraiment essayer de retrouver la parole en famille ou entre amis, si vous êtes seul et que vous n'avez pas que vous ne vivez pas en famille, appeler les amis, enfin vraiment, peut-être que ce canal de la parole, il est plus important que jamais.
Oui, bah, en fait, si tu veux, ça rejoint un peu des choses qu'on disait pendant le premier confinement. Je crois que c'était d'ailleurs la première ou la deuxième chronique ensemble, où on disait essayer de maintenir un rythme de vie le plus habituel, le plus normal possible, même si il y a du distanciel, même si on ne peut pas se regrouper, même si, etc. Bah, ça va avec, c'est-à-dire que maintenir un rythme de vie normal, c'est aussi maintenir les interactions qui font cette vie normale. Donc les interactions avec les proches, les interactions avec les collègues, si on s'entend bien avec eux, etc. Maintenir les interactions, ça permet de parler, d'échanger, de se rendre compte aussi peut-être que les autres sont dans une situation similaire et du coup on se sent moins seul et moins anormal. C'est un mot qui revient beaucoup dans la bouche des patients qui disent est-ce que je suis anormal, est-ce que je suis le seul à mal le vivre, est-ce que c'est parce que moi je suis plus ci, plus ça, moins ça, moins ça. En fait, si on en discute entre nous, d'ailleurs, moi, c'est ce que je leur dis très souvent, je leur dis, vous savez, la période n'est pas géniale, pour moi non plus.
Enfin, mais oui, voilà. Pour tout le monde, oui, bon, oui. On est vraiment sur un même pied d'égalité, malheureusement.
Exactement. On est quand même très nombreux à avoir un sommeil assez pourri en ce moment, on est très nombreux à avoir des projets qui sont entravés, on est très nombreux à se dire, bah, là, c'est les fêtes et on ne va pas pouvoir voir les gens qu'on aime et qui sont un peu loin. Donc, déjà, de partager ça, je trouve que c'est beaucoup parce que je vois bien la tête des gens quand je leur dis pour moi aussi en ce moment c'est compliqué. voilà, ça me rend pas déprimée pour autant, mais c'est vrai que ça m'agace, ça m'entrave, ça me rend triste. Ah bon, ah d'accord, bah oui, bah donc c'est normal, hein, on est tous dans un même bateau qui est très compliqué à gérer sur une mer qui semble ne pas avoir de fin.
Oui, et effectivement, faut pas hésiter à en parler. On n'est pas, personne n'est anormal. C'est peut-être la conclusion qu'on pourrait faire. Et vraiment, si soyez extrêmement vigilants les uns envers les autres. Passez un petit coup de fil aux amis que vous savez esseler. Veillez aux jeunes dans vos familles ou dans votre entourage. Soyons vigilants et bienveillants les uns envers les autres.
Et puis essayez aussi peut-être, puisque là il y a la perspective des fêtes, et on en parlera plus la semaine prochaine je crois, mais essayez aussi d'inventer du plaisir sur cette période-là. Alors, tu vois, j'ai eu cet échange-là avec une patiente hier, on parlait des fêtes, et je lui dis en rigolant, écoutez, nous on s'est dit, puisqu'on peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, on va bien bouffer, faire des beaux cadeaux, voilà, bon.
on se rattrape si on arrive
à avoir du plaisir à manger et du plaisir à offrir quelque chose de beau, parce que de toute façon, en ce moment, on peut pas dépenser d'argent dans autre chose, eh bien, au moins, on génère le plaisir, on se le génère pour nous et on le génère pour les autres, et déjà ça, c'est beaucoup.
Absolument. Bah, merci beaucoup Armelle. Et puis effectivement, la semaine prochaine, on va parler des fêtes. Mais d'ici là, je te souhaite une excellente semaine et je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine.
Merci Sylvie.
Au revoir.
C'est jeudi, j'ai psy.